La parole des contes avec Anne Wong.
Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue à la parole des contes. Les enfants de la mer. Nous retrouverons les enfants abandonnés dans un petit berceau flottant sur les flots, récupérés par une dame et les mésaventures. Et des choses assez incroyables, le jeune homme va perdre la parole et il va la retrouver. Et ça se terminera bien malgré la cruauté terrible d'une méchante sans laquelle l'histoire n'existerait pas. Ouais, il faut toujours des méchants pour que l'histoire existe. Alors, commençons. Il était une fois une femme, justement cette méchante, qui n'avait qu'une fille, encore enfant à la mamelle, nommée Marotte. Cette vieille et sa fille habitaient, enfin elle n'était pas si vieille que ça, elle habitait une cabane sur le bord de l'eau, sur le bord de l'île, au rivage des flots. Elle vivait là de ses chèvres et de ce que la mer lui apportait. Certaines nuits, il y eut tempête. Un vaisseau avait dû se fracasser sur les roches. Cette femme alla voir si le flot ne lui amènerait pas quelques épaves, pièces de bois rompues, bouts de planches pour son feu. Elle vit venir sur les ondes un berceau où dormaient deux tout petits enfants. Les deux enfants, un garçon, une fille, vraisemblablement frères et sœurs, et certainement jumeaux. Leur linge était de fin lin, les épingles étaient d'or, et dans le berceau rien d'autre, si ce n'est le portrait en miniature d'une très belle dame, couronnée tout en diamants. Ah, quel air elle avait, un air de jeune reine. La femme fouilla et refouilla le berceau sans trouver rien d'autre. Ceux qui montaient le navire semblaient avoir péri. Elle a emporté ses deux petits dans sa cabane, elle les a nourris de son lait, comme sa propre fille, puis du lait de ses chèvres, et elle les a élevés avec sa petite, à elle, sa marotte. Ils travailleront pour moi quand ils auront pris force. De fait, plus tard, ils lui ont fait un jardin dans les roches, trois figuiers qui penchaient sous le vent, deux touffes de romarin, des fleurettes en bordure comme des gouttes de sang, trois carreaux de légumes. Cette île était quasi déserte, eux, les chèvres et un vieil homme. Les enfants ont grandi sans rien savoir du monde. Seulement un mot à la rencontre du vieil homme qui a su leur montrer à jardiner un peu. Le garçon y a eu tant de goût qu'il est devenu habile. Il a appris à faire pousser la laitue, le concombre, la fève, à couper le poirier et le mettre en espalier. Le vieil homme venait le voir et il le conseillait. « Ce garçon est de si bon naturel, songeait le vieil homme, qu'il ne s'est point ensauvagé dans ce coin perdu. Il serait dommage qu'il y restât plus longtemps. « Tu serais mieux chez le roi, lui a-t-il soufflé à l'oreille. Pars, va-t'en, traverse la mer. Moi, j'ai vécu là-bas, dans le jardin du roi. J'essayerai de regagner ce pays quelques jours. Oh, je ne veux pas quitter ma sœur, ma marinette, a dit Marin. Je ne la quitterai jamais. Tout ce que Marin faisait, tout ce qu'il trouvait, c'était pour Marinette. Et Marinette, si elle ramassait quelques coquilles de couleur, tressait un chapeau de jonc ou du lait de ses chèvres si elle faisait un cahier, c'était pour son marin. Tous les deux, ils n'avaient qu'un seul cœur. Le vieil homme a essayé pourtant de faire voir les choses au garçon, et ce garçon avait l'entendement si ouvert qu'il les y a à peu près reçus. « Oui, oui, je devrais sortir d'ici. Reste que quitter ma sœur, ça... « Comment le pourrais-je ? » Il y a pensé un jour, un mois, un an. « Je sais ce que je ferai, a-t-il dit au vieil homme. Je partirai, mais j'emporterai ce portrait qui était dans notre berceau. Désormais, on jurerait que c'est le portrait de ma sœur. Puis dans un an, je reviendrai l'acquérir. Il a dit à la femme de la cabane qu'il allait traverser la mer, qu'il se ferait jardinier chez le roi. « Tu feras bien !» lui a-t-elle répondu. « Et quand tu seras chez le roi, on le dit jeune et bienfaisant, souviens-toi de nous autres, de Marotte, ma petite, et de moi. Je vous ai nourri, toi et ta sœur. Ne me mets pas à l'abandon. Eh bien, je vous emmènerai aussi, je vous le jure. C'est juré ?»«
C'est juré. »
Il est parti sur un vaisseau, déchiré de se séparer de sa sœur, content, sans se le dire, de respirer un autre air que celui de la femme et de sa fille Marotte. Content surtout d'aller se présenter au roi, ce roi qui n'avait que son âge, mais dont la louange volait comme une chanson sur les îles de la mer. Les cheveux au vent, à l'avant du pont, marin s'en allait. Tout s'ouvrait pour lui, la mer, le monde et la faveur du roi. Et sous sa chemise, il avait ce portrait qui était trait pour trait celui de sa sœur, de sa marinette. Il la regardait quand personne ne pouvait le voir. En débarquant, il s'est rendu droit au château. Le roi l'a reçu. Du premier coup d'œil, Marin a aimé le roi, s'est voué à son service. Et le roi aussi l'a aimé, l'a pris sur l'heure pour jardinier, lui a dit ce qu'il aurait à faire dans le jardin. Tout à faire en ce grand jardin. Un jardin, ce n'est jamais fini. On y passe la journée, le lendemain, le surlendemain. Ça s'y connaît à peine. Fumer, bêcher, biner, désherber, sarcler, rateler, selon les temps, ou préparer les couches, ou donner une façon aux planches de légumes. Marin s'occupait là, dans ce jardin du roi, du soleil sortant à soleil rentrant. Parfois, derrière quelques poiriers ou quenouilles, ou trois grosses fleurs de tournesol, il se redressait, il ôtait son chapeau, s'essuyait le front. Alors il pensait à sa sœur, à leur jardin de l'île. Il se demandait ce qu'elle faisait à cette heure. La femme et la marotte lui menaient peut-être triste vie. Peut-être, si loin de lui, se sentait-elle seule à mourir. Alors, de sa chemise, il tirait le portrait. Il le regardait au creux de sa main, il s'y perdait. Un soir, au bout de l'allée, il venait de tomber dans une de ses contemplations. Soudain, il a senti que quelqu'un était là, qui regardait aussi le portrait par-dessus son épaule. Il a tourné la tête et il a vu le roi. « Que je vois ?» a dit le roi. « De qui est-ce le portrait ?»« Sire, ce portrait est de ma sœur jumelle. »«
Oh, donne, tu n'en as plus que faire.
À l'heure même, prends mon vaisseau et va l'acquérir dans ton île. Tu la ramèneras sans perdre un seul moment. Elle est faite pour être la reine de tous ceux qui la verront. Je jure de ne pas prendre une autre femme qu'elle. »
Le roi avait gardé le portrait. Il le considérait encore.
« Comment se fait-il qu'elle soit couronnée tout en diamants comme une reine. Peut-être que ce mariage était écrit d'avance.
Sire, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'une femme nous a trouvés dans un berceau venu à elle sur le flot, et il y avait ce portrait, qui est devenu le vrai portrait de ma sœur. »
Le roi regardait Marin, le regardait au visage. « Je te crois, toi qui as le même air qu'elle. » Et ce que tu me diras, je le croirai toujours.
Il a fait mettre voile au vent à sa flotte. Marin s'est embarqué, tout transporté de joie à l'idée de revoir sa sœur. Il est parti sur l'heure monter sur le vaisseau royal. Trois jours après, vers le milieu du jour, il était dans son île. Il s'est jeté dans la cabane. comme Marinette et Marotte et la mère mangeaient leur soupe de poisson.
« ma sœur, tu vas me suivre dans le château du roi. Il a vu ton portrait et il te veut pour femme. »
Il n'aurait pas dû t'entendre dire, surtout devant les deux autres. Mais il était garçon tout loyauté, n'imaginant même pas faux semblant ni traîtrise. La mère s'est levée, a posé son écuelle comme quelqu'un qui a fini de dîner.
« Tu nous emmèneras tous »
a-t-elle dit en chaussant ses sabots.
« Je vous ai nourris dans la nécessité. Vous nous assisterez dans la bonne fortune. D'ailleurs, tu as juré. »
« Oh, comme je suis de mauvaise nature !» songeait Marin. « C'est vrai qu'elle nous a nourris, petits-enfants. Et quand je les vois, elle et la Marotte, un frisson me court sur la peau. Je ne sais ce qu'il y a, mais je sens bien qu'elles n'aiment pas ma sœur dans leur cœur. Comment vais-je penser cela, pourtant ? Cette femme nous a nourris, elle nous a sauvés. Et puis, je lui ai juré. Allez, chez le roi, je l'emmène. » Mais c'était chose plus forte que lui. Il a voulu parler, il a voulu leur dire qu'il ne pouvait pas les emmener au château, que celui était défendu. Et tout rouge d'embarras extrême, il n'arrivait pas. Non, il n'arrivait pas à dire cela. Et il s'est senti tellement empêché qu'en son gosier, sa langue s'est nouée. De rouge, il est devenu blême. Et il a perdu la parole. Là, debout dans la cabane, il s'est trouvé muet, muet comme un poisson. Ils se sont embarqués, tous quatre, sur le vaisseau du roi, mais la fortune qui allait échoir à Marinette avait rempli d'envie et Marotte et sa mère. Elles étaient sur le haut pont du vaisseau, n'avaient autre chose à faire qu'à regarder les ondes. « Fille oisive, fille mal pensive, » chantaient les ondes. Toute la journée, elles ont pensé, pensé et repensé. À Marinette, le cœur plein de fiel, et elle ne rêvait que malice, fureur et mort. Sur le soir, entre chien et loup, avant qu'on allume le fanal, la vieille femme a su prendre son temps. Le capitaine était au gouvernail. Les mariniers dans les cordages, car le vent se levait. Marin avait le dos tourné. La vieille s'est glissée à côté de Marinette. Tout à coup, penchée sur les ondes, elle a fait celle à qui vient d'échapper son mouchoir. Marinette s'est penchée, elle aussi. La vieille l'a saisie par les pieds et l'a fait passer par-dessus bord. À cet instant, Marin s'est retourné. Il a vu ou il a cru voir s'il n'a pas vu. Il s'est jeté sur cette femme, mais sans pouvoir crier ni parler. Dans cet instant a éclaté un formidable coup de tonnerre et la tempête a commencé. Tout de suite, un branle-bas à ne s'y plus reconnaître et qui a duré jusqu'au matin. Marin ne savait plus qu'une chose, que sa sœur avait disparu. En son cœur, il se sentait certain que c'était la vieille femme qui avait jeté Marinette à la mer. Mais il ne pouvait pas jurer qu'il l'avait vue de ses yeux. Et va te faire entendre alors que t'es muet et que tu ne sais pas écrire. Il était fou de chagrin, d'embarras, d'ignorance. Et il n'avait que 16 ans et il n'était jamais sorti. Les mariniers, après cet ouragan, n'allaient pas regarder s'il n'y avait plus que 2 femmes au lieu de 3. À peine s'ils avaient vu la troupe qui s'était embarquée. Le commandant du roi était d'en amener d'une. 3 jours après, le vaisseau est arrivé au port. Marin, Marotte et la vieille femme sont montés au château. Le roi s'est trouvé bien déconcerté devant cette fille qui n'était pas celle du portrait. Et voilà que son jardinier ne pouvait rien expliquer et semblait tout perdu. « Ah, c'est la tempête qui lui a noué la langue !» a dit la vieille femme. « La foudre a bien failli nous mettre tous en poudre. Voyez, sire le roi, elle a quelque peu chauffé, bouilli la face de sa sœur jumelle, qui se trouve du reste être plus belle ainsi, n'est-ce pas, non ? Mais il ne faut que patience et repos pour que tout cela s'arrange. » Le roi avait juré. C'était pas parce que la foudre qui avait rendu muet son jardinier avait durci et dérangé les traits de sa fiancée et qu'il allait manger son serment. Son cœur ne lui faisait pourtant aucune joie. Comment aimer cette fille à la face butée, aux petits yeux sournois, dont la peau était plus grenue qu'un coup de dinde? Il aurait voulu faire parler ce marin qu'il avait pris en amitié, mais le voyait là, hébété à demi, comme un garçon qui a reçu un coup de bûche sur la tête. « Es-tu lourd? Es-tu sourd? Es-tu lourd? Es-tu sourd ?» Il semblait au jeune roi qu'il n'y avait plus autre chose à demander à marin. Il ne lui demandait dès lors en toute rencontre chaque fois qu'il le croisait, qui passait tristement par la cour du château ou qui suivait l'allée des arbres noirs. Et le roi avait un oiseau qui parlait, un oiseau rare, auquel il tenait fort. Cet oiseau a pris l'habitude de poser lui aussi la question à marin. « Es-tu lourd ? Es-tu sourd ? Es-tu lourd ? Es-tu sourd ?» Les noces, cependant, se sont faites. Grandes noces! Mais le roi n'était pas si grandement joyeux. Marin, lui, paraissait plus assommé que jamais. Quand le roi le priait de faire un bouquet pour la reine, le faisant, la main lui tremblait. Et plus que jamais aussi, l'oiseau lui cornait aux oreilles. « Es-tu lourd? Es-tu sourd? Es-tu lourd? Es-tu sourd ?» Tant cela s'est dit et chanté que la vieille a pris peur de l'oiseau. Elle s'est imaginée qu'à force de corner marin, il l'amènerait à parler. Ou peut-être qu'il ne cornait tant que parce qu'à part soi, il savait déjà tout. Un soir, elle n'a pas pu y tenir. D'un couteau bien aigu, elle a percé cet oiseau en plein cœur. Elle a caché le couteau sanglant sur le chevet de marin. Puis, elle est allée dire au roi que marin avait tué l'oiseau. Le roi se l'est fait amener par deux de ses valets. Marin n'avait pour se défendre que son regard, cet air qu'il portait au visage. Mais comme ce regard et cet air-là parlaient. Le roi considérait marin. Puis, derrière marin, les jardins, les nuées. Comme s'il cherchait tout là-bas quelque vérité qui l'eût fui. En tout cas, s'est-il dit, même si c'est marin qui a tué cet oiseau, je le pardonne. Peut-être n'a-t-il pu supporter de s'entendre harceler sans cesse. Es-tu lourd, es-tu sourd, es-tu lourd, es-tu sourd ? Que marin n'ait pas été mis à mort a tout déçu et inquiété la vieille. « Si jamais elle retrouvait la parole, disait-elle à sa fille, songe à ce qui arriverait, mais songe ! Malheur à nous ! Tant qu'il sera sur terre, allant, venant, je ne vivrai pas !» Quand on a fait le pas dans le chemin du crime, comme elle l'a fait en jetant Marinette à la mer et en tuant l'oiseau, on se voit forcé d'aller loin. Plus loin, sa tête a travaillé, dans un feu noir de peur et de haine et d'angoisse. Elle et sa fille se sont sans cesse concertées. Elles ont cherché des moyens de perdre marin. Cette reine Marotte, la fille de la vieille,
venait d'avoir un fils.
« Ne te réjouis pas !» lui a soufflé sa mère.
« Maintenant, le royaume a donc un héritier.
Le roi ne te regardera plus. Il n'a pas su t'aimer, le roi.
Moi, je vois les choses. Et que le petit pourrait nous débarrasser de ce muet.
Or, tant que le muet vivra, notre vie ne tiendra qu'à un fil. C'est le fil de sa langue.
Remets-moi le petit avant que tu t'y attaches.
Je sais, moi, ce que j'en ferai. »
Ce qu'elle a fait, cette harpie, elle a percé le cœur de l'enfant du même couteau bien aigu qu'elle avait le mois d'avant percé le cœur de l'oiseau. Puis elle a caché le couteau sous le chevet de Marin. Criant, pleurant, comme en furie, elle a couru se jeter aux pieds du roi.
« Je le savais, je l'avais dit que ce maudit muet ne ferait que malheur. C'est lui qui a tué votre fils. Il hait sa pauvre sœur depuis qu'elle est sa reine. Il ne peut pas lui pardonner cette couronne. Suffit de voir les regards qu'il lui jette. Mais c'est être ainsi payé sur ce pauvre innocent. »
Le roi a jeté l'œil sur le couteau, plein de sang qu'on lui montrait, trouvé sous le chevet de Marin. Et il n'a pas voulu qu'on lui amenât Marin même. Il a donné commandement qu'on lui attache une pierre au cou et qu'on le précipite du haut de la roche dans la mer.
« Eh bien, va pour la mer, j'irai du moins, s'est dit Marin, retrouver ma sœur. »
« Je ne sais pas quelle lune nous a vu naître, mais cette terre ne nous a rien valu. Peut-être les ondes nous vaudront-elles davantage. »
Pieds et poings liés, une pierre au cou, Marin est donc porté par les valets au haut de la roche, et de là, dans les flots, ils l'ont précipité.
Ce qui lui est advenu, il ne l'a jamais su. Il s'est retrouvé dans une grotte où venaient battre les ondes. Et il s'y est tenu caché, vivant de coquilles et d'herbes. Un jour qu'il se trouvait assis au fond de la caverne, songeant et s'attristant, il a vu tout à coup le flot s'élever en tumulte. Une fille en est sortie. Elle s'est avancée jusqu'au sable de la grotte. Elle n'aurait su aller plus loin car une chaîne d'or ondoyante la retenait par la cheville. Et cette fille, il l'a reconnue. C'était Marinette, sa sœur. Ils se sont embrassés. Ils tremblaient tous deux, mi-riant, mi-pleurant.
Ah, ce n'est pas pour rien qu'on est jumeaux. Ils sentaient cela si fort.
Tu vois, lui a-t-elle dit. Notre marraine m'a recueillie, la fée de la mer. Elle m'a sauvée des eaux, mais je dois vivre près d'elle dans son château marin. Aujourd'hui, je n'ai qu'un quart d'heure à te faire compagnie. Demain, j'aurai une demi-heure et je te dirai comment me délivrer, peut-être. Après-demain, j'aurai une heure. Mais si ce jour-là, tu ne me délivres pas, je rentrerai pour toujours dans le château de la mer. »
Marin a été si saisi, si transporté de joie que sa langue s'est dénouée et il s'est mis à parler.
Ils ont parlé, assis l'un près de l'autre, les mains dans les mains. Il lui a parlé, 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 parlé. Il lui a conté ses malheurs, tout ce qui était arrivé depuis qu'elle n'était plus à ses côtés sur le vaisseau.
À peine avait-il fini qu'elle a dû rentrer dans les flots tirés par la chaîne ondoyante.
Il est resté seul en sa grotte. Il se sentait une hardiesse inouïe.
« Que ferais-je » s'est-il dit, « si je me présente au château avant que j'aborde le roi.
Marotte et sa mère me font tuer. »
Ah, que je puisse seulement délivrer Marinette, que nous puissions tous deux regagner le jardin.
Il ne s'est pas tenu de sortir, d'errer de sablon en sablon sur le rivage. Ainsi errant, derrière une butte, il a avisé une cabane, faite de roseaux, comme celle de l'île. Il s'est avancé de ce côté, tâchant de demeurer à couvert, et avancé encore. Enfin, il a reconnu dans le maître de la cabane le vieil homme qui lui avait fait prendre son état de jardinier. Sous un pêcher, ils se sont retrouvés. Sous un figuier, ils ont mangé ensemble un poisson rôti sur la braise qui a semblé un festin à ce pauvre marin. « Je t'aiderai en tout ce que je pourrai, » a dit le vieil homme. « Demain, à l'heure où doit venir ta sœur, je te rejoindrai dans la grotte. Marinette te dira peut-être comment la délivrer. » Elle le leur a dit ce second jour, la chaîne d'or ondoyante toujours à sa cheville. « Je reviendrai un troisième jour encore et vous pourrez me délivrer ce jour-là. Il vous faut une enclume de 300 livres pesant, un marteau de 15 livres et puis un ciseau d'or. Mais prenez garde, hein, attention, attention. Si d'un seul coup vous ne coupez la chaîne, elle me tire au fond de la mer et c'est toi, c'est pour toujours. » Enclume, marteau, ciseau, ou prendre tout cela? Le vieil homme a tout calculé. Assis, jambes croisées sur le sable. Puis il s'est levé et il est monté au château. En tournant son chapeau, il se présente au roi. « Sire le roi, je suis votre ancien jardinier. Par un effet de votre bonté, voudriez-vous me prêter, pour un jour seulement, une enclume de 300 livres, un marteau de 15 livres et un ciseau d'or? Je les rapporterai demain avant midi. » Le roi n'est pas un homme rude. Il a donné commandement de prêter tout cela. Le coq a chanté le nouveau jour. Marinette est sortie des ondes. Marin l'attendait dans la grotte, tenant à deux mains le marteau de 15 livres devant l'enclume de 300 livres pesant. Et le vieil homme tenait le ciseau d'or. Tout devait se faire d'un seul coup. Ce coup-là du marteau, Marin l'a porté sans trembler. La chaîne d'or a sauté comme un serpent qui saute. Elle a disparu sous les flots. Et Marinette s'est retrouvée délivrée. « ma sœur, » a dit Marin, « regagnons l'île. Allons seulement retrouver notre jardin de là-bas. Frère, je te suivrai partout. Mais je voudrais que le roi vit de ses yeux la vérité et que tu ne lui as pas menti. » « Eh oui, » a dit le vieil homme, « il faut vous présenter au roi. » Ils n'ont pas eu à en prendre la peine, car le roi a paru dans la grotte. La curiosité l'avait pris de savoir pourquoi son jardinier avait affaire de cette enclume, de ce marteau, de ce ciseau d'or. Il a vu Marinette. Il a reconnu la reine du portrait. Et il a vu Marin. Et il l'a reconnu. Il a fallu le mettre au fait de tout. Jamais homme plus saisi, plus délivré aussi, comme si le ciseau d'or venait pareillement de faire sauter sa chaîne. Tous trois, suivez-moi au château. De ces mains que vous voyez, je veux faire justice. Eux, ils voulaient l'en empêcher. Mais cette peine-là non plus, ils n'ont pas eu à la prendre. La vieille femme et sa marotte de fille, inquiète de savoir où le roi avait bien pu aller, était montée sur la plus haute tour. Elles l'ont vu d'en haut revenir à grands pas, non comme un homme qui rentre à son logis, mais comme un lion qui arrive au carnage. Sans en croire d'abord leurs yeux, elles ont vu venir Marin et Marinette. Et sous les pieds, le sol leur a manqué, comme si s'effondrait la tour. De là-haut, toutes les deux, elles se sont jetées dans les ondes, et nul fait de la mer pour les y recueillir. Le vieil homme est redevenu le jardinier du roi, seulement il bêchait plus, de fort valait bêcher pour lui. Il gouvernait, réglait le jardin, suivant la lune et les saisons, et semait les semences, et le roi a pris Marinette pour reine. Thank you.
chères auditrices et chers auditeurs, merci d'avoir écouté cette longue histoire qui demande plus d'attention que les histoires moins longues, comme dirait le petit lapin. Et je vous souhaite une excellente semaine et souhaite vous retrouver à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.